pouvez faire, vous annoncer les quatre parties de l'exposé que je vais vous apporter ce matin. Le thème, donc, c'est le texte sacré qui est la curiosité. Et voici les quatre parties. La première, le tout inséparable du texte sacré. Deux, l'achèvement de ce tout dans les années 30 à 70. 3. La permanence identitaire de ce tout. Et 4. Mais là, je fais plus bref parce que je ne peux pas revenir sur ce qui constitue la plus grande partie de mon livre. Alors, je serai très bien sûr pour revenir. La portée de sens de ce tout pour toute l'existence humaine. La portée de sens de ce tout pour toute l'existence humaine. Et alors, tout d'abord, donc, la première partie, le tout inséparable du texte sacré. C'est volontairement que j'emploie l'expression inhabituelle de texte sacré. Vous savez que je suis un curieux des mots et du sens des mots, et le mot texte m'a paru tout à fait approprié pour désigner ce que nous appelons en général la Bible ou l'Écriture sainte, ce qui risque, je vous le signale, d'être ambigu dans la mesure où les Juifs appellent la Bible leur livre saint. Alors quand on dit la Bible, est-ce qu'il s'agit de la Bible des Juifs ou est-ce qu'il s'agit de la Bible que nous avons l'habitude d'intituler avec ce nom? Ou bien alors l'Écriture. L'Écriture aussi, c'est un terme qui a la même ambiguïté par rapport aux Juifs, mais je dirais qu'il aujourd'hui acquiert un sens encore plus dangereux à certains égards, dans la mesure où pour les musulmans, qui, vous le savez, sont très nombreux dans le monde, ils sont de plus en plus nombreux, en particulier en France, c'est le Coran, l'Écriture. Donc, j'ai pris cette expression, le texte sacré, je ne dis pas que j'y tienne d'une manière particulière, mais le mot texte vient d'un mot latin, textus, qui signifie à la fois le tissu, la trame, l'enchaînement. Et le mot textus vient lui-même du verbe texere, qui signifie tisser, tisser, tresser, composer. Et je dirais que la caractéristique de cette œuvre divine, c'est qu'elle est précisément un enchaînement dans l'unité, un tissage au long de nombreux siècles, une texture, le patient agencement dans un bel ouvrage, dans un bel ensemble maintenant achevé de ce qu'est la parole écrite de Dieu. Donc, j'aime ce mot texte à cause de cela, car inévitablement, il nous présente ce que nous appelons généralement les Saintes Écritures comme un ensemble inséparable, bref, comme un tout. Et nous nous trouvons devant une difficulté, c'est que l'appellation fâcheuse que j'aimerais rejeter et qui serait difficile de rejeter, l'ancien et le Nouveau Testament vient d'abîmer tout ça. Rien que de dire ancien et Nouveau Testament, c'est une catastrophe. Parce qu'en bon français et en bonne n'importe quelle autre langue, qui dit l'Ancien Testament, ben ça veut dire un testament dépassé, obsolète, caduc, périmé, frappé de nullité. Et puis heureusement, on a remplacé l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, vous savez, quand quelqu'un fait un testament, un protestateur, quand il fait le Nouveau Testament, ça veut dire que l'Ancien, c'est fini. Donc, les mots Ancien et Nouveau Testament, c'est le moins qu'on puisse dire, ce sont des mots fâcheux. Ce sont des mots regrettables. Parce que on met dans ces titres déjà une incitation au marcionisme, c'est-à-dire, comme je vous le disais hier matin, cette hérésie qui consiste à rejeter l'Ancien Testament, à regarder le Nouveau, et comme dans le Nouveau il y a beaucoup de l'Ancien, et bien finalement on finit par balancer la plupart du Nouveau, et il reste à Marcion une petite feuille pour toute la vie. Et bien la tentation de marcionisme, Marcion, mais la tentation, le commencement de tentation de marcionisme, il est là déjà dans le titre Ancien et Nouveau Testament. Si vous l'adressez à un non-chrétien aujourd'hui, et que vous lui parlez de l'Ancien et du Nouveau Testament, il risque de vous dire tout de suite, dans le sens, on le comprend, non, l'Ancien c'est pas la peine, moi, le Nouveau me suffit. Et je crois que c'est dangereux. Et je crois que longtemps déjà, pendant les deux premiers siècles, en tout cas pendant les deux, trois premiers siècles, de l'Église, on ne parlait pas d'Ancien et du Nouveau Testament. On parlait de la Bible. La Bible, et la Bible c'était sous-entendu reçu d'Israël, reçu des Juifs, et à cette Bible, peu à peu et au fur et à mesure qu'ils étaient écrits, se sont ajoutés les livres des apôtres, la tradition des apôtres. Et c'est pour ça que nous trouvons chez certains pères, dans un sens qui n'est pas du tout le sens où beaucoup croient qu'il faut l'entendre, on parle de Bible et tradition. Ça veut dire tout simplement la Bible que nous avons reçue des Juifs et qui a été pendant quelques années la seule Bible des chrétiens. Et je dirais que la Bible juive, c'était la Bible des chrétiens. On allait dans les synagogues, on prenait les rouleaux de la Bible juive et c'était le livre saint des chrétiens. Et puis, au fur et à mesure, petit à petit, peu à peu, mais très vite, on a ajouté à ces livres les écrits de Paul. Il y avait d'autres appellations. Par exemple, on a parlé de la loi et l'évangile. La loi, alors là, un petit détail, le mot Torah en hébreu, c'est malheureux qu'il soit traduit par le mot loi et qu'il ait été traduit en grec par le mot nomos, parce qu'en fait, la Torah, ça veut dire l'instruction, l'enseignement. La Torah de Moïse, c'est l'enseignement de Moïse. Et le mot loi, pour nous, ça fait immanquablement penser à un code. Or, la loi de Dieu n'est pas un code. Elle est beaucoup mieux qu'un code. Elle est un enseignement. Et je dirais, les commandements, ce ne sont pas des articles de code, mais je dirais, il y a tout un ensemble. Au fond, l'ensemble de l'instruction publique, sur le plan des commandements, est résumé par le décalogue, et le décalogue a été, vous savez, résumé par Jésus dans les deux commandements qui résument l'ensemble de la loi. Donc, vous voyez, il faut faire attention, le mot loi est un mot ambigu aussi. Et surtout de nos jours, vous savez, la loi, ça passe difficilement aux yeux de beaucoup de gens, surtout lorsque la loi, souvent, au lieu d'exprimer la justice, exprime l'injustice. Alors, on est avec des mots embarrassants. Et je vous dis ça parce que je crois que dans l'apologétique dont il a été question hier, dans l'évangélisation dont il a aussi été question hier, c'est très important que nous connaissions bien un petit peu le sens des mots. Sinon, nous aurons des difficultés dès l'abord avec un non-croyant. Pas l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Et plutôt dire enseignement ou instruction que loi. Alors on disait la loi au sens de l'instruction, on disait la loi et les apôtres. Et dans le dialogue avec le juif Trifon, Justin, qui est d'ailleurs mort martyr au début du second siècle, quand il citait la Bible, la Bible est le livre juif, disait les Écritures, et quand il citait la tradition de l'Église des apôtres, il disait les témoignages ou les mémoriaux de Jésus. Donc, vous voyez, au départ, il n'y a pas eu d'Ancien et Nouveau Testament. Heureuse époque bénie de l'Église, où il n'y avait pas question d'Ancien et Nouveau Testament, on avait un ensemble inséparable qui était fait de la Bible venue des Juifs et des traditions venus des apôtres et qui ont constitué ce que nous avons eu le malheur finalement d'appeler le Nouveau Testament. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on pose Bible et tradition, ou bien que on mette tout simplement à la suite les quatre parties de la Bible, la loi, les prophètes, les écrits, les apôtres. Alors, c'est important parce que la coupure est très mauvaise. J'allais même dire au point de vue même de l'imprimerie. Si vous prenez nos Bibles, elles sont lamentablement séparées par deux ou trois pages blanches au milieu. Hein? Et quelquefois même, on recommence à compter à partir de là. Je sais que la première édition de la Bible à la Colombe, eh bien c'était 1 à 1400 et quelques, et puis on repartait à 1 et 1. Rien que ça aussi, c'est significatif. C'est très mauvais, ça. Et c'est pour ça que j'insiste. La Bible est un tout inséparable. Est un tout inséparable. Et ça a des conséquences terribles. Ça, par exemple, il est très dommage qu'il y ait dans nos facultés de théologie, à commencer par cette Aix-en-Provence, un professeur d'Ancien Testament et un professeur de Nouveau Testament. C'est très grave. C'est très grave. Et de même, on parle quelquefois de la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament. Alors là, on est sur toutes les voies possibles d'agitant. Pourquoi alors on ne rend pas la théologie de Moïse, la théologie de David, la théologie de celui-ci, de celui-là, autant de théologies qu'il peut y avoir d'auteurs dans les Écritures. C'est très grave. C'est très grave, d'autant plus que même au point de vue d'un homme, c'est grave. On dit souvent, l'Ancien Testament, je reprends la mauvaise expression, a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a écrit en grec. C'est pas tout à fait ça. En ce sens que, d'abord, l'Ancien Testament a des parties qui ont été écrites en araméen, et puis surtout, c'est que le grec du Nouveau Testament, qu'on appelle quelquefois la Koiné, c'est-à-dire la langue courante, dans tout l'Empire romain, on parlait de la poésie. Ça n'est pas évident non plus. Le grec du Nouveau Testament, ce n'est pas la langue courante. Bien sûr, il y avait des enfants à la langue courante, comme il y avait des enfants très classiques, mais il y avait énormément d'hébraïsme. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que, à moins que le professeur du Nouveau Testament soit très qualifié en hébreu, il manquera des expressions qui sont des hébraïsmes. Et donc, ce serait beaucoup mieux d'avoir un professeur pour les livres bibliques, un professeur d'introduction à l'ensemble de la Bible, un professeur, alors bien sûr, à la rigueur, il peut y avoir un professeur de grec et un professeur d'hébreu, il faut que le professeur de grec soit très au courant de l'hébreu pour qu'il puisse justement ne pas rater le sens des expressions du Nouveau Testament qui, je le répète, sont des expressions hébraïques. Hébraïque mis en grec, mais hébraïque quand même. Alors, c'est à nous de corriger, s'il est possible, cette première erreur de l'Église à partir, disons, du 3e ou 4e siècle. Et en tout cas, il faut prévenir gentiment nos interlocuteurs, nos voisins, nos collègues de travail, nos prochains, quand nous les abordons pour leur parler de Dieu, leur parler de Christ. Il faut les prévenir. Vous savez, hein, il y a l'Ancien Testament et notamment, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a un livre, un texte sacré qui est inspiré tout entier par Dieu et qui donne tout inséparable. Et puis alors, il y a une deuxième erreur de l'Église, que malheureusement, la réforme, sur certains points, rattrapé quelque chose, mais dans d'autres points, elle a persévéré dans ses erreurs. On a persévéré dans l'erreur de l'Ancien et du Nouveau Testament, alors qu'au moment de la réforme, on avait eu l'occasion d'en finir avec l'Ancien et le Nouveau Testament, mais en plus, on a fait une chose, à mon sens, inversée. Il y avait, vous le savez, la Bible juive, et puis il y avait une tradition de la Bible juive, second siècle avant Jésus-Christ, qu'on a appelée la Bible dite des Septante. Ça veut dire la Bible à l'usage des nations, puisque selon le livre de la Genèse, chapitre 11, il y a 70 nation, les descendants de Noé. Et donc, la Bible des sept hommes, ça veut dire la Bible des nations. Et comme on parlait pas mal de grec, en particulier à Alexandrie, eh bien, on a traduit la Bible de l'hébreu en grec, mais en faisant une faute assez grave, c'est qu'on a pris, je ne sais pas, des juifs de Palestine, bien entrés, comme l'ont été Jésus et les apôtres dans la tradition palestinienne et proprement hébraïque, et on a ajouté un certain nombre de livres qui sont en réalité des livres apocryphes, qui n'ont pas lieu de se trouver dans la Bible, et on les a mis. Alors on avait donc la Bible juive et la Bible des Septante, d'ailleurs la traduction grecque de la Bible juive, et avec des ajouts. Et en plus, au lieu de mettre les livres de la Bible dans le bon ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de la Bible juive, on a mis les livres de la Septante selon, soi-disant, ce qui est qualifié. Ce qui est qualifié, pas entièrement. Par exemple, ça qualifie bien pour dire le Pentateuque. Le Pentateuque, ça veut dire les cinq rouleaux. Et c'était très mauvais. Tandis que si on dit les atores à Moïse, c'est déjà beaucoup plus parlant. Surtout si on dit plutôt encore l'enseignement de Moïse, ou si on dit l'instruction de Moïse, donc le Pentateuque, du Saint-Pouvre, etc. Et bien, alors après, on a classé, on a dit, il y a des livres historiques. Comme si, par exemple, la Genèse et l'Exode étaient moins historiques que les livres historiques. Puis ensuite, on a mis les livres poétiques, en oubliant que beaucoup des prophètes avaient écrit leur prophétie en poésie et pas en prose. Alors, vous voyez, on a fait un classement, soi-disant le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques, bon, au lieu de garder tout simplement l'ordre de la Bible juive, qui est d'ailleurs indiqué dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les écrits. Alors, tout ceci, c'est dommage. Et en plus, par rapport aux juifs, ça nous a mis dans une position fausse. Parce que nous disons le salut vient des juifs, Jean 4, 22, nous disons, si aux juifs ont été confiés les paroles révélées de Dieu, Romains 3, 2, ou les juifs ont reçu le don de l'instruction, Romains 24, et puis Luc 21, 44, parle bien de la loi, les prophètes, les psaumes, parce que c'était le livre qui était en tête des livres, des écrits, et le plus important entre eux, alors mais la loi, les prophètes et les psaumes, c'est les grands parties de la Bible juive. Et ça crée une difficulté. Je vous montre simplement cette petite difficulté, il y en a d'autres. Dans Matthieu 23, 35, Jésus parle du sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérédia, que vous avez tué entre le temple et le temple. Ah, c'est très embêtant de ne plus avoir l'ordre de la Bible juive. Parce que le premier meurtre, c'est celui d'Abel et lui de la Genèse, dans sa croix. Mais le dernier meurtre, celui de ce Zacharie, qui fut en fait lapidé. On parle du second livre des chroniques au chapitre 24 et au verset 21, c'est-à-dire tout à la fin du livre des chroniques. Alors si vous n'avez pas l'ordre normal de la Genèse aux chroniques en passant par la loi, les prophètes, les écrits, voilà une parole qui est complètement compréhensible. Vous vous souvenez, mais pourquoi Jésus dit depuis Abel jusqu'à ce Zacharie? On ne peut comprendre ce que ça veut dire que si on a l'ordre de la Bible juive, si on a lâché cet ordre. Alors les réformateurs, je le répète, ont commis première erreur de continuer à parler d'ancien et nouveau testament. Ils avaient l'occasion d'en cesser avec cette erreur. Mais deuxième erreur, ils ont aussi maintenu l'ordre de la Bible juive dans l'ordre. Bien sûr, ça n'est que les livres de la Bible juive. Sur ce point, ils ont fait une rectification. Ils ont vendu, comme dans les sept ans, des livres apocryphes. Mais, ils ont groupé toujours avec le balladeur, les livres historiques, les livres poétiques, les sportifs, c'était une deux erreurs qui seraient à corriger. En tout cas, moi, je crois qu'il faut les corriger. Alors, il y en a qui disent non, non, on va corriger les choses, ça fait 18 siècles qu'on voit comme ça. Je dirais, ma réponse est très simple, quand il y a une erreur, elle peut être de 5 siècles, de 50 siècles, de 1000 siècles, c'est toujours une erreur. Et deuxième point, c'est que nous ne savons pas encore combien de temps va durer le monde. Il semble d'ailleurs qu'il va durer assez longtemps, puisqu'il nous est dit dans les 10 commandements, dans le décalogue, dans les commandements, que la bénédiction de Dieu ira jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Or, 1000 générations, si on compte à peu près 30 ans par génération, ça fait 30 000 ans. Alors déjà, il y a une chance pour que ça dure encore. Et pour moi, de mon point de vue particulier de post-millénariste, je crois qu'effectivement, on en a encore pour un bon bout de temps. Et alors, à partir de là, si on ne fait pas la correction en ce sens, on conseillerait quelqu'un comme un Atlantique de Wood qui pense que la fin du monde, c'est pourtant 2 ans, 5 ans, 6 ans, chaque fois on se trompe, chaque fois on fait des calculs, et puis ça recommence, et alors on va mourir toujours pour que ça vienne tout de suite, alors ça fait déjà 150 ans pour que nous faisions demain. Alors, c'est quand même très ennuyeux, c'est ça. Il faut corriger. Alors donc, je propose et qu'il faudrait faire ces deux choses. Enfin, j'arrête là ma première partie et j'en viens à ma deuxième partie, à savoir l'achèvement du tout de l'écriture dans les années 30 à 70. Il y a eu un grand changement historique depuis maintenant une vingtaine d'années. Vous savez que c'est un théologien tout à fait moderniste et libéral, qui est l'auteur d'un livre lamentable, qui s'appelle Honest to God, je veux parler de Robinson, qui a fait, par contre, un livre remarquable. Et pour ça que quelquefois nous avions dit que le diable porte pierre, et je dirais que le pire théologien libéral, tout d'un coup, il peut dire quelque chose qui est très sage. Et il a fait un livre qui s'appelle Redéfinir le New Testament. Et dans ce livre qui a été publié en 1976, il montre, et il le montre à mon sens d'une manière élevée, que tous les livres du Nouveau Testament ont dû être écrits, et même pour lui, ont été écrits avant l'an 70. Moi, je ne referai pas le détail du livre de Robinson. Et ce qui est amusant, je dis en passant, c'est que la traductrice de ce livre est très longue. Elle a traduit le livre, ça l'arrange sûrement à plusieurs points de vue. Mais elle trouve dans la préface le dire, vous savez, hein, quand même ce Robinson, bref, elle s'arrange pour réserver son propre avenir et elle a traduit Robinson, d'accord, mais elle n'est pas d'accord avec Robinson. Ça, c'est très clair dans sa préface. Enfin, ça a été traduit. Et en plus, il y a un autre livre très remarquable qui s'appelle non pas Relater le Nouveau Testament, mais qui est aussi un livre en anglais et qui commence aussi par Redating, mais à ce moment-là, il s'agit de Redater Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques. Le théologien qui s'appelle Benham et qui a publié ce second Redating, alors lui, il montre, avançant aussi d'une manière magnifique, que le bon ordre est bien l'ordre dans lequel nos évangiles se trouvent dans le Nouveau Testament. Matthieu est le premier, Marc le second, Luc le troisième. Il le démontre d'une manière d'ailleurs très éclairée. C'est un livre qui lui a demandé 30 ans. Il a fait 30 ans d'études et de travaux pour l'écrire avant de publier. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. Parce que ça change pas mal de perspective. Et en particulier, nous aboutissons, là je vous résume un peu, je ne peux pas vous faire le détail de Robinson, c'est un livre énorme, je ne peux pas vous faire le détail du livre de Benham, parce que ça pourrait être un livre au moins gros que qu'ils ont eu un rôle important. Et bien, alors, il y a des travaux en particulier du musée Pelle, par deux hommes, à mon sens, qui ont fait des travaux remarquables aussi, qui est publié dans Biblical Horizons, c'est dans un périodique américain. Et c'est intéressant parce qu'ils aboutissent à conclure que l'évangile, le premier évangile, en tout cas celui de Matthieu, a dû être écrit au tout début des années 30. Et c'est important, ça a été rejoint par une catholique qui a fait un titre un peu provocateur, un peu un livre tout récent, qui s'appelle « Les évangiles sont des reportages ». Et il suit au fond tout à fait ce que disent Jordan et Leda, qui sont les deux écrivains. Je vous ai dit que ça, il n'y a pas de problème. Donc Jordan, tout le monde pourra lire comme il faut, mais Leda, c'est comme ça. Voilà. Alors, on a vous dit, je résume, donc je vais un grand résumé, je me suis servi aussi bien de Robinson que de Benham et de Biblical Horizon. Vous avez, il y a eu l'état fondatrice du tout premier temps de l'Église. Les deux premiers auteurs de la tradition apostolique sont Matthieu, avec son évangile, qui a déjà été écrit d'abord en hébreu ou en araméen, et traduit ensuite en grec. Matthieu et Jacques. Alors, Matthieu et Jacques, entre les années 30 et 35. C'est-à-dire, il n'y a absolument pas un temps de tradition orale de l'un à l'autre. Matthieu, d'ailleurs, avait accompagné Jésus au long de son ministère. C'était un homme qui avait l'attitude des écritures à cause de son métier même. Et il a probablement déjà noté, en particulier, les discours de Jésus. Alors, on a Marc ensuite, mais je parle d'abord de cette étape fondatrice. Matthieu et Jean. Et l'appel de Matthieu et de Jean, c'est qu'il faut suivre l'enseignement de Jésus. L'évangile de Matthieu est bourré de discours de Jésus, c'est là où l'enseignement de Jésus est le plus développé. Alors, et Jacques, dans son épître, vous savez, il dit avoir la foi, très bien, mais il faut que cette foi soit une foi qui, dont on témoigne par ce qu'on fait, par sa vie, par ses œuvres. Et ça, ça veut dire suivre l'enseignement de Jésus. Croire en Jésus, c'est d'abord suivre son enseignement. Alors, c'est l'époque fondatrice. Là, ça va en gros dans les années 30. Ensuite, il y a l'étape qu'on peut appeler l'étape mathéenne, hein, sur le domaine adjectif, à cause de l'évangile de Matthieu, l'étape mathéenne, qui est donc dans les années 30. Ensuite, vous avez l'étape pétrinienne, qui va donc jusqu'au 44. De cette époque date l'évangile de Marc, la première lettre de Pierre, et c'est très important aussi de voir que tout est centré là à Jérusalem, mais avec une projection vers les nations, une espèce de départ. Alors il y a l'évangile de Jacques, l'évangile de Marc, d'ici les compagnons de Pierre, je vous rappelle. Troisième étape, de 44 à 60, l'étape paulinienne. Toutes les lettres de Paul sont de ces années-là, ainsi que la seconde de Pierre, dans laquelle, je vous rappelle, que Pierre parle des lettres de Paul comme faisant partie des saintes Écritures. C'est un passage que vous connaissez sans doute, et c'est très important, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui tordent le sens des Écritures, et comme en plus les lettres de Paul ne sont pas toujours faciles à comprendre, et cependant, quelles sont dans ces Écritures. Donc oui, c'est intéressant de voir que dès ce moment-là, on a l'assurance non seulement que Paul a écrit ses lettres, que la seconde de Pierre date de cette époque de 44 ans, mais qu'en plus déjà, avant 60, il y avait la reconnaissance des lettres de Paul. Les lettres de Paul, au fur et à mesure, on les lisait dans une église, c'était qu'ils les recopiaient et les repassaient, les refilaient, les communiquaient à d'autres églises. Et donc, très vite, les lettres de Paul se sont répandues et font partie déjà des Saintes Écritures. On les lit comme on lit les livres de Moïse, ou les prophètes, ou les écrits. Bon, déjà, peu à peu, les lettres de Paul sont ajoutées. Enfin, quatrième étape, l'étape johannique des années 60 à 68, c'est alors que Jean écrit son évangile, écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Et où on a les trois lettres de Jean, ainsi que la lettre de Jude et la lettre aussi. Bref, en 68, disons en gros de 30 à 70, la tradition apostolique est complètement constituée. Elle n'est pas encore mise en ligne. On mettra l'église des quatre états, même dans cette église, on ne connaît pas encore certaines lettres de Paul, ou la lettre de Jude, ou la lettre des Paul. Bon, mais ça fait rien. Il y a déjà la reconnaissance dans un certain nombre d'églises que, à la Bible venue des Juifs, s'ajoute la tradition venant des apôtres. Dans cet esprit, je voudrais, je ne veux pas compliquer votre esprit, le mien est déjà assez compliqué, mais je voudrais essayer de vous montrer qu'il y a des petites choses dont nous ne nous rendons pas bien compte. Et en particulier, vous avez une expression que l'on trouve déjà dans au début, en tête du chapitre 65 d'Ésaïe, et qu'on retrouve en tête du chapitre 21 de l'Apocalypse, dans Ésaïe 65, ça commence par « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Jean, dans l'Apocalypse, au début du chapitre 21, dit « Je vis de nouveaux cieux et nouvelle terre ». L'expression est la même, « nouveaux cieux et nouvelle terre ». Or, cette expression, que reprend d'ailleurs Pierre dans sa seconde lettre, cette expression « nouveaux cieux et nouvelle terre », il faut la comprendre. Et je dirais, la difficulté, c'est que trop souvent, on l'a comprise en un sens littéraliste. Comme si le ciel et la terre anciens, tout à coup, disparaissaient, et comme si de nouveaux cieux et une nouvelle terre, au sens littéraliste, apparaissent. Oh, pas du tout. Ça veut dire, au fond, il y a comme un changement fabuleux, dans le monde. Et je m'excuse de développer un peu ça, mais je pense que ça peut avoir son importance. Vous savez que Saint Augustin, au début du IVe siècle, au moment où Rome venait d'être conquise et démolie en partie par les barbares, Augustin a écrit un livre admirable qui s'appelle La Cité de Dieu. Et il compare d'ailleurs toute l'histoire en commençant avec Adam et en ne finissant pas, puisque ça ne finira qu'à la fin des siècles, c'est le combat de deux cités qu'on peut symboliser aussi par le combat de Babel et Babylone et de Jérusalem, ou bien le combat des deux cités. Mais avec l'ensemble de la Bible, il vaut mieux parler du combat entre deux. Alors là, c'est parce que en une façon changée, ça ne se pas très bien. On a quelquefois voulu envoyer ici comme ça le mot héros. Je plaisante les gens pour toutes sortes de raisons, à cause du choix du nom, toutes sortes de raisons. Tandis qu'il vaut mieux simplement reprendre la statistique en grec, voilà, la statistique en grec comme ça. Aïon, c'est au pluriel. Hein, ça fait agnosis. Voilà. Alors, Weber compare du combat des deux marionnettes et il faut voir que c'est un combat. Il y a l'ancien Agon et il y a le nouvel Agon. Alors l'embêtant, c'est que les traducteurs, et je les comprends, je ne sais pas tout ce qui dit, et les traducteurs traduisent quelquefois par siècle. Ils traduisent quelquefois par monde, l'ancien monde, le nouveau monde, parce que c'est plus proche aussi de l'expression ancien ciel, ancien terre, nouveau ciel, nouvelle terre, vous voyez. Mais je préfère qu'on garde simplement le mot sec. Quitte à l'étudier, il y a le combat de deux cités, ou le combat de deux Agones. Il y a l'ancien Agone et le nouvel Agone. Bon. Mais, au point de vue chronologique, ça ne va pas du tout avec l'alliance, dans ce sens que vous vous en souvenez, l'alliance, nous l'avons dit encore ce matin, l'alliance c'est une histoire. L'alliance commence, et puis elle a une durée historique, et il y a des états successifs, il y a des alliances comme l'alliance, et finalement, c'est chronologique. Ça veut dire, ça suit le temps, on suit le temps. C'est-à-dire qu'avec les Agones, on ne suit pas le temps. Le combat des deux Agones, les deux Agones, ils existent au départ. Ils ont déjà existé avec Adam et Ève et leur descendance, et ça dure tout au long de l'histoire. Ce qui les caractérise, c'est que l'homme, c'est l'Agone du premier Adam. Tandis que le second Agone, c'est l'Agone du second Agone. Ou, si vous voulez, on ne parlera plus du premier Adam, c'est pas Adam, on dira, il y a l'Agone d'Adam, notre père à tous, et puis il y a l'Agone de Jésus. Et lorsque c'est l'Agone, celui du premier Adam, le temps des premiers, du premier ciel et de la première terre, c'est un temps de ténèbres, durant lequel, en Adam, l'humanité tout entière, exilée de Dieu, demeure à la suite de la désobéissance d'un seul, sous le coup d'une juste condamnation à la mort. Romains 5, 12 et suivant, 1 Corinthiens 15, 21. Voilà, donc c'est la gueule, c'est ça. En un sens, au moment où nous naissons, c'est dommage, mais c'est comme ça, nous naissons dans l'ancienne alliance. Nous naissons chargés de la faute d'Adam, qui est d'ailleurs la faute commune de toute l'humanité. Notre tête, c'est Adam. Nous sommes des Adamiques, et nous sommes dans l'alliance de la mort, des ténèbres, de l'ancienne terre et d'ancien ciel. Et puis il y a un nouvel Adam, celui du dernier Adam, Jésus, le temps des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, le temps de la lumière durant lequel ceux qui sont en Jésus deviennent de nouvelles créatures, sont les créatures toutes choses qui sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Jésus. Alors, vous voyez un peu la situation. Pourquoi c'est difficile de parler chronologie et d'avant après? Puisque sur la terre, en ce moment, sans que les hommes puissent vraiment dire ça, il y a ceux qui sont encore et toujours en Adam, et qui sont toujours dans l'ancienne Agone, et qui sont donc toujours dans les ténèbres et sous la condamnation à la mort. Et puis, il y a ceux qui sont au Jésus-Christ, ceux qui sont dans le nouvel Agon, ceux qui sont des créatures nouvelles. Et alors, ce qui est dommage pour nous, c'est que si l'ancien Agon ne règne plus sur nous, si en ce sens nous sommes morts à l'ancien Agon, il reste encore quand même en nous des choses de l'ancienne. Le péché ne domine plus sur celui des nouvelles créatures, mais sur le croyant qui est son péché. Il y a des restes de péché, et il en sera ainsi jusqu'à sa mort. Mais, pas rien, en réalité, il est aussi et d'abord en Christ. C'est Christ qui domine sa vie. Alors, voyez, au point de vue chronologique, on arrive à des choses. Il y a des gens qui, 20 siècles après Jésus-Christ, sont toujours dans l'ancien âge. Vous me suivez. Et il y a des gens qui ont vécu avant Jésus-Christ, et qui étaient déjà dans le nouvel âge. Vous me direz, mais c'est pas possible, ça fait. Et si, parce que pour compliquer les affaires, nous avons une parole de l'Apocalypse qui est tout à fait étrange, qui nous dit que le Christ, Jésus, a été immolé, le mot très, il faudrait traduire par égorgé, il a été égorgé avant la fondation du monde. Alors ça aussi, allez faire chronologie maintenant. Oui, c'est. Bon, alors je dis ça paraît compliqué, mais je pense que vous. Pour lequel ce qui est l'ancien accord, qui a commencé avec Adam et qui dure encore aujourd'hui. Et ce qui est le nouvel accord que Jésus-Christ a établi par son sacrifice, mais avec une portée avant lui. D'ailleurs, il y avait des textes qui sont très nets à cet égard. Il nous est des questions d'Israël au désert. Et il se fondait sur un rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'est le Christ. Ça nous l'est dit en toute lettre. Donc, avant Jésus-Christ, tous ceux qui ont vu le jour de Jésus-Christ et qui sont devenus en Jésus-Christ comme par anticipation des créatures nouvelles, il est né dans le nouvel aïeul. Si bien qu'on peut dire en un sens, ce qui fait le changement, c'est Jésus-Christ. Mais le changement, il l'opère avant lui. Et il l'opère après lui. De même que nous avons des restes en nous de l'ancien aïeul, même si nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes, alors en ce sens-là, vraiment des nouvelles créatures, dans vraiment un nouveau ciel, et dans un nouveau ciel, et sur une nouvelle terre où le Jésus s'arrêtera, qu'après la venue en gloire de Jésus-Christ, la résurrection des morts et la transfiguration de l'univers. Alors, j'espère, Dieu qui est dans mon esprit, hein, ne croyez pas que ce soit tout simple, mais j'espère quand même que vous voyez que c'est à la fois quand même très simple, en même temps qu'apparemment très compliqué. Alors, vous avez donc deux réalités différentes sur lesquelles il faut bien être clair. Il y a l'alliance qui est historique. Alors, il y a l'alliance qui est historique. Et puis, à côté de ça, il y a la question des deux alliances, des deux cités qui se comparent depuis le commencement, mais il y a une cité qui est déjà si l'on prend en Jésus. Et je pense qu'Abraham, c'est une figure extraordinaire, une figure. Quand on pense qu'à côté de nous, il ne savait à peu près rien. Pensez, nous avons tout l'étendue de la révélation de Dieu qui s'est accrue, précisée au long des siècles depuis Abraham jusqu'à nous. Nous en savons comme ça que les Abraham en savaient comme ça. N'empêche que pour la foi et pour saluer la cité qui est l'avenir, eh bien, je vais vous dire qu'Abraham est comme ça, et puis nous sommes comme ça. Parce qu'Abraham est le père des croyants, le modèle des croyants. Et je salue ici Abraham. Je ne lui rends plus. Je ne vais pas lui brûler l'ensemble. Et je m'incline devant Abraham, notre père. Il a cru. Et les Israélites, après lui, qui étaient fidèles, ils ont vu les Juifs. Ils ont vu son revoir. Ils ne connaissaient ni son nom, ni ce qu'il avait fait, parce qu'il avait déjà fait depuis avant la fondation du monde, dans un certain sens, puisqu'il est immolé depuis avant la fondation du monde. Alors vous me direz, mais c'est un peu tordu, tout ça, c'est pas du tout tordu, c'est nous qui sommes tordus. Mais la réalité qui nous est révélée, elle n'est pas aujourd'hui du tout. Elle est claire, elle est belle. Et nous pouvons être dans l'adoration. Alors, définitivement, au cœur de l'histoire, par l'incarnation du Fils unique de Dieu et sa victoire sur le diable, le péché et la mort, le nouvel Adam a déjà remplacé l'ancien, définitivement, en Jésus. Mais tout au long de l'histoire, progressivement, avec des mots, des pas, mais quand j'ai dit progressivement, ça veut dire une progression rythmique, une progression avec des moments de chute, des moments de... Progressivement quand même, peu à peu, au long de l'histoire, le nouvel Aïon, qui n'est pas encore parvenu à sa plénitude, remplace l'ancien Aïon qui n'est pas encore dissipé. Et finalement, au terme de l'histoire, l'ancien Aïon ne sera plus et il n'y aura plus que le nouvel Aïon. Et alors, cette triplicité définitivement, progressivement, finalement, nous la vivons dans notre vie chrétienne. Et là, je prends simplement deux étapes. Le salut. D'après la tradition des apôtres, nous avons été déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. 2 Timothée 1, 2. En notre sens, nous sommes en train d'être sauvés. Progressivement. Philippiens 2, 12, 13. Et nous serons pleinement sauvés. 1 Pierre 1. C'est très intéressant pour ça. Et c'est pour cette vérité. Et alors, êtes-vous sauvés? C'est mystérieux cette question, mais la réponse, elle est pas si facile. Oui, nous avons été sauvés définitivement en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'être sauvés par l'action du Saint-Esprit. Et nous serons pleinement sauvés à la fin. Ou encore, c'est là le deuxième exemple, l'image. Nous avons été recréés à l'image de Dieu. Éphésiens 4, 24. Nous sommes progressivement recréés en son image. 2 Corinthiens 3, 12. Et nous serons pleinement recréés à son image. Philippiens 3, 21. La conversion, c'est passer de la mort à la vie, c'est passer d'ancienne aïeule au nouvel aïeule. Autrefois, on était ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, d'accord. Et quand Saint Paul écrit que le Père nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé, il nous apporte à la fois une proclamation au passé, une affirmation au présent et une prophétie au futur. Alors, je pense qu'on a suffisamment dit pour vous faire sentir ou revoir votre vie en main l'histoire de l'Alliance qui est vraiment chronologique dans le temps. Et puis le combat des deux Lyonnaises ou des deux cités, qui est un combat qui a commencé avec Adam et qui finira qu'à la fin des temps. Au centre de l'Alliance, Jésus-Christ. Au centre du combat des deux Lyonnaises, Jésus-Christ. Mais dans un sens, et je dirais les choses vont vraiment uniquement progressivement dans l'Alliance, avec des moments plus en bas et des moments plus en haut, tandis que dans notre sens, là, on est, en un certain sens, déjà hors de l'histoire. Voilà, alors nous allons peut-être nous faire écrire quelques minutes, mais pas plus de 5 minutes, dans 5 minutes, comment parce que je voudrais arriver à terminer. Alors je vous rappelle que dans une première partie, nous avons parlé du tout inséparable qui est le texte sacré. Ensuite, dans une seconde partie, du définitif achèvement de ce tout dans le temps apostolique des années 30 à 70 de l'ère chrétienne. Je vais maintenant, dans ma troisième partie, vous parler, ça on en parle assez peu, mais je crois parce que j'ai inventé que je vais vous dire, mais je vais vous truc, je vais vous parler de la permanence et de l'identité constante, de la permanence identitaire du texte sacré. La permanence identitaire du texte sacré. Et là, je touche à un point de la doctrine catholique réformée qui est presque, on peut dire, un point particulier du catholicisme réformé. En effet, on parle très souvent de l'inspiration, de la théopneustie comme symbole du texte sacré. Le texte sacré, c'est la parole écrite de Dieu parce que tout ce que les écrivains qui l'ont écrit porté par le Saint-Esprit et tout ce qu'ils ont écrit finalement vient du souffle de Dieu. Théopneustie, c'est ça. Il y a dans l'écriture sainte jusqu'au mot du souffle. Et les livres qui, selon l'article 20, les 39 articles de l'Église d'Angleterre, l'Église qui est la gardienne et le témoin des Écritures, elle est gardienne et témoin, mais c'est le Saint-Esprit seul qui perçoit. C'est l'Église qui me dit, ça c'est la parole de Dieu. Alors je vais y voir. Et si j'ai bien vu, bien finalement, le Saint-Esprit m'a persuadé que c'était bien la parole de Dieu. Donc, je vous attention, l'Église fait connaître, en tant que témoin également, elle fait connaître, et c'est l'Esprit Saint qui perçoit. Mais tout ça, ça remonte au temps où ces écrits ont été composés. Bon, vous savez, aucun écrit ancien, dans n'importe quelle littérature du monde que ce soit, on n'a pas les manuscrits autographes. Personne n'a jamais vu une ligne de Platon dans un texte écrit par Platon. Et c'est la même chose pour toute la littérature ancienne. Nous n'aurions pas une ligne de l'Énéide, car nous n'avons aucun manuscrit ayant conservé l'autographe de Virgile. Et c'est la même chose pour la Bible, il n'existe pas un manuscrit de Saint-Paul. Et alors là, évidemment, ça pourrait poser une question, et ça pose une question à certains, mais en tout cas, pour nous, catholiques réformés, ça ne pose pas de question. Parce que nous croyons que Dieu ne s'est pas contenté d'inspirer les Écritures, mais il a veillé à ce qu'elle soit gardée. Je vous cite deux textes de confession de foi réformée. D'abord, la confession de Westminster, chapitre 1, article 8, elle dit « L'Ancien Testament en hébreu, langue maternelle de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec, langue la plus répandue parmi les nations à l'époque de sa rédaction, directement inspiré par Dieu, et alors voilà l'ajout, et gardé pur au long des siècles par sa providence et ses soins particuliers sont authentiques. » Ah, ça c'est intéressant. Dieu a inspiré, mais il a veillé à ce que soit gardé pur au long des siècles par sa providence et ses soins particuliers ces écrits qui sont authentiques. Ça, c'est important. Et de même, un quart de siècle après Westminster, en 1675, le théologien réformé François Turretin de Genève, Lucas Guernel de Bâle et Jean-Henri Heidegger de Zurich, dans leur formula consensus helvetica, c'est-à-dire dans leur formule d'accord suisse, a dit « Dieu, le juge suprême, n'a pas seulement pris soin de faire coucher par Égypte, par Moïse, les prophètes et les apôtres, sa parole, qui est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais il l'a aussi chérie. Et il a aussi veillé sur elle, avec un soin paternel, depuis qu'elle a été écrite jusqu'au temps présent, afin qu'elle puisse être corrompue par la ruse de Satan ou les manœuvres frauduleuses des hommes. C'est pourquoi l'Église attribue justement à sa grâce particulière et à sa bonté le fait qu'elle garde et gardera jusqu'à la fin du monde une sûre parole prophétique et des écrits sacrés, donc avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i et pas un point de i ne passera. Ça, c'est la doctrine réformée, la doctrine catholique réformée. Et c'est pourquoi nous attachons, nous autres, une grande importance à deux textes dont la plupart du temps, les théologiens, pas seulement les libéraux, mais même les orthodoxes, ne tiennent pas. Nous sommes attachés au texte hébreu. Et là, pas bien, le texte hébreu gardé des synagogues, texte à partir duquel Saint Jérôme avait déjà traduit la Bible en latin, et c'est le texte que nous recevons, le textus receptus. Il a d'ailleurs ce texte hébreu, il a été récemment réédité par un grand savant, Casino, à Jérusalem. Notre Bible est la Bible des Juifs, parce que le salut vient des Juifs, et parce que, ce qui est très important, c'est aux Juifs qu'ont été confiés les oracles de Dieu. Eh bien, nous recevons ce texte hébreu. Et nous avons comme texte grec, le texte grec qui s'est perpétué, qui est aussi un texte de cette vie, qui s'est perpétué dans les églises d'Orient. Et oui, faut oublier qu'il y a eu tout de suite des églises grecques, on dirait aujourd'hui des églises grecques orthodoxes. C'est fait, prêtres qui n'ont pas magnifiques. Bon, ils ne vont pas en pied leur part, mais ils ont ils ont gardé le texte grec sans interruption depuis les apôtres du Saint-Esprit. Et la Réformation a manifesté dans l'esprit catholique dans le bon sens du mot, parce que tous ces docteurs, aussi bien luthériens que réformés d'ailleurs, ont reconnu les apographes, c'est-à-dire non pas les autographes, mais les copies des autographes, qui se sont succédés au cours des siècles, comme le texte de Moïse, des prophètes et des apôtres. Alors voilà, c'est un point important. Et je disais, pour vous souvenir, parce qu'il y a un malheur qui s'est produit à un moment donné, vous le savez, s'il y a eu un théologien calviniste, par ailleurs, très important, et dont je vous recommande d'ailleurs les ouvrages, sauf les ouvrages qui parlent de ce travail sur ce point, c'est Benjamin Morphy. Benjamin Morphy est arrivé à une doctrine incroyable. Il a dit, il faut qu'à l'aide de la critique textuelle, telle que l'on définit les savants allemands, nous arrivions peu à peu à reconstituer le texte autographe. Et il est perdu, mais on va essayer de peu à peu, grâce à la critique textuelle, de le reconstituer, parce que c'est ce texte-là qui est inscrit. Et c'est affolant. Alors ça veut dire que l'Église n'aurait pas le texte inspiré, hébreu et grec, de la parole de Dieu. Il se serait envolé. Dieu l'aurait inspiré pour le laisser perdre. Donc nous affirmons que puisque Jésus lui-même est dit qu'il ne passerait pas un iota ni un trait de lèvres de la parole de Dieu, nous devons croire que Dieu a préservé dans le Textus hébreu manuel dans les synagogues, et on va finir par les maçorettes, un petit mot sur les maçorettes en passant pays, les maçorettes ça veut dire les conteurs, non pas les conteurs au sens de ceux qui racontent des contes, mais les conteurs au sens de ceux qui comptent. Parce que les pastorets, qui étaient transmetteurs de la Bible, vous savez que la Bible juive est laissée en caractère, en ce carré, hein, et était comme ça, on était bon. Eh bien, ils comptaient, dans le sens horizontal, le nombre exact de lettres, dans le sens vertical, parce que tout était bien tracé, ce sont des lettres carrées, les lettres juives, on peut les inscrire dans un petit carré. Ils comptaient. Et ils comptaient tellement, ils passaient leur vie à compter, de manière à qu'il n'y ait pas une erreur dans le texte. Si bien que le texte, on appelle le texte maçorétique, le texte maçorétique, c'est un texte qui est le texte que Dieu a préservé dans les siècles, et les Juifs qui l'ont transmis, et depuis le temps des apôtres, c'est le texte que Jésus a lu dans la synagogue de Maron. C'est le texte qui s'est gardé, et d'ailleurs c'est lui, ça veut dire que c'était bien gardé le texte. Pourquoi ça veut dire ça? Parce que jamais Jésus n'a énoncé le moindre avertissement au sujet du texte. Le texte qui disait dans la synagogue de Capernaum, il savait que c'était vraiment le texte de Moïse, ou le texte des prophètes, ou le texte des Écritures. Et c'est ce texte qui s'est déjà conservé depuis le temps où vous avez été dit jusqu'à Jésus, qui ensuite s'est perpétué par les maçorettes jusqu'à nos jours, etc. D'ailleurs, avant les maçorettes, il y avait déjà eu des scribes pour pratiquer les maçorettes, ça fait tant plus longtemps. Mais c'est le texte qui s'est gardé. Alors, c'est pas un texte de l'original, on ne connaîtra jamais. Et alors, c'est important, parce que si on suit Benjamin Montfrey, comme on crut devoir suivre sur ce plan, ça veut dire alors qu'il faut attendre je ne sais combien de dizaines d'années, de siècles, avant que, soi-disant, la critique textuelle aura réussi à rétablir le texte autographe. Et qu'est-ce qu'on sait? Et sur quoi il s'appuiera pour dire que c'est le texte autographe? Et qui nous s'assurera que ceux qui veulent corriger le texte reçu le corrigent vraiment selon une objectivité et un respect total de la parole de Dieu? Alors, je voudrais terminer en vous parlant maintenant de la méthode. Alors, la méthode, ce que j'appelle la méthode, et ceux qui ont appelé les méthodistes, faites attention, c'est que ça soit du tout mon frère méthodiste, je parle de ce que la méthode historico-historico-historique. Là, on dit la méthode pour abréger, je ne vais pas vous dire à chaque fois la méthode historico-historique. Elle a été parfaitement définie par un homme dont je vous ai dit le nom, là, proche, qui a fait un article, Über historische und dogmatische Methode in der Theologie, et ça c'est dans un livre, alors c'est un texte qui a été publié à la fin du XIXe siècle, dans lequel ce théologien, qui était lui-même libéral, nous définit les trois présupposés, les trois principes de base de la méthode. Le principe de critique, le principe d'analogie et le principe de causalité. Alors tant pis, ça vaut la peine, là je reviens du coup parce qu'on l'utilisait si justement hier, vous savez qu'au temps de Samson, c'était avec des mâchoires d'âne que Dieu faisait massacrer les Philistins, premier de l'Ancien Testament, ce n'est plus avec des mâchoires d'âne que Dieu veut que nous battions les Philistins. Il faut aussi, autant que possible, avoir des mâchoires, non pas d'âme, mais d'hommes qui cherchent la vérité avec la devise de Saint-Augustin, credo intelligam, je crois pour comprendre, ou la vérité reprise par Saint-Anselme, plus tard au Moyen Âge, lorsqu'il disait, c'était la même formule que disait chez nous, ils étaient là, et Saint Anselme disait fides, quaerens, intellectus. La foi qui cherche l'intelligence. Bon, alors, voilà. Ça vaut la peine de savoir un peu les principes de la méthode. Parce que la méthode, elle est répandue dans tous les séminaires, dans toutes les facultés de théologie, dans tous les lieux où on prépare les pasteurs. Je crois quand même qu'à la communauté modeste, elle est dénoncée. Enfin, il faut un peu connaître ces principes. Premier principe, le principe de qui. Alors là, je vous cite exactement ce que dit Troch. Il érige ce principe. La raison, en tant qu'instance autonome et normative, comme instrument d'investigation de l'histoire, ceci parce que la méthode est un fruit de la tradition humaniste et rationaliste qui s'est cristallisée au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières, c'est le siècle de Laocléon, c'est le siècle du rationalisme, c'est le siècle de l'encyclopédie, c'est le siècle de Diderot. Eh bien, nous dit notre théologien, nous dit le principe de Schlegel, on érige la raison, instance autonome et normative. Alors je pose la question en disant autonome et normative. Mais qu'est-ce qui est autonome? Et qu'est-ce qui est normatif? Il n'y a que Dieu. Donc quand il dit qu'on érige la raison en tant qu'instance autonome et normative, ça ne veut rien dire. On va déifier la raison. C'est la raison autonome et normative qui va être l'instrument d'investigation de l'histoire, et donc en particulier de l'histoire qu'on raconte la vie. Et l'historien exégète, devenu le maître de la situation, va juger librement, selon les schémas établis, de la probabilité et de la possibilité des événements qui sont rapportés dans les écrits. Déjà, et ça c'est en plein aussi les Lumières, Kant, dans sa première préface à la critique de la raison pure, en appelait, je cite, au tribunal de la raison pour légiférer sur l'ensemble du savoir humain. Alors, prenons le point de critique, la raison autonome et normative va juger de tout, va mesurer tout. Et va dire, c'est possible, c'est pas possible, c'est arrivé, c'est pas arrivé, c'est le principe de la chute. Et il dit de vous dire, il y a deux choses qui ne peuvent pas arriver, c'est un miracle. Et c'est une prophétie. Et alors, si une prophétie vous est rapportée dans l'Écriture, c'est facile, c'est qu'elle a été écrite après que l'événement soit survenu. Voilà. C'est un principe. Alors, quand dans la Bible, on nous annonce quelque chose et qu'on sait que la chose est effectivement arrivée, ça veut dire que la prophétie n'a pas été écrite avant l'événement, comme le dit la Bible, mais qu'elle a dû être, qu'elle a forcément dû être écrite avant. Voilà, premier principe. Deuxième principe, le principe d'analogie. Alors, ça, c'est autre chose. Elle pose le principe que le présent est la clé du passé et que les événements passés ne peuvent être analogues, comparables aux événements considérés aujourd'hui comme possibles. Mais ça rejoint un peu le principe. Mais si vous voulez, le principe de l'analogie. On n'a jamais vu de notre époque quel événement se produire. On a vu. Mais on n'a jamais vu l'événement se produire qui ne puisse être la règle dans l'étude des événements du passé. C'est pas possible que l'événement du passé se passe s'il n'a pas son analogue dans ce qui arrive aujourd'hui. Principe de l'analogie. Alors là, c'est plus Kant qu'il faut citer, mais on retrouve la célèbre identification de Hegel, tout ce qui est rationnel est réel, et tout ce qui est réel est rationnel. Tout ce qui est rationnel est réel, et tout ce qui est réel dans les Cieux Saints. D'ailleurs, poussé à l'extrême, ça s'avise des tas de choses, ça, finalement. Il y a des choses incroyables qui arrivent. Vous savez, on a une petite phrase en français, la réalité dépasse la fiction. Eh bien, si on suit le principe de Dieu, c'est pas possible. La réalité ne peut pas dépasser la fiction. Alors, on est là dans un domaine purement rationaliste. Et enfin, le troisième principe, le principe de causalité, ou je vais appeler de corrélation, qui est l'avis que l'histoire est un continuum. C'est un continuum, l'histoire. Et c'est un continuum clos d'événements dont chacun est le résultat d'un événement antérieur et la cause d'un événement postérieur. Un enchaînement de causes et d'effets. Un continuum de causes et d'effets. Un univers clos où tout ce qui arrive parce qu'il y a une cause qui a produit l'effet et parce que cet effet, à tout le monde, devient une cause qui produit un effet et ainsi de suite. Ce principe nous présente donc l'histoire comme un paramètre temporel homogène et aussi bien la transcendance que l'immanence du Dieu révélé ensuite dans les Écritures sont exclus. Autrement dit, la méthode, avec ces trois principes que je viens d'énoncer, le principe de critique, le principe d'analogie et le principe de corrélation, le principe de modalité, eh bien voilà, on est enfermé dans la méthode. Et c'est pour ça qu'avec ceci, on va aboutir à des résultats incroyables. Et en particulier, vous avez, à partir de Boëlhaeusen, en critique biblique, on va arriver non seulement à découper chaque livre biblique selon des sources différentes, mais même les passages de la Bible, et je ne exagère pas, ça va me sembler un peu plus tard, mais même un seul verset a pu être distillé quelquefois en deux ou trois sources différentes. C'est inouï, parce qu'on appliquerait ce principe, le même principe qu'on appliquerait à n'importe quel livre. On pourra toujours découper un livre en lui attribuant « Ah, ça c'est de telle personne, ça c'est de telle. » C'est toute la littérature mondiale qui est flanquée par terre. C'est une hypothèse. Et alors, heureusement, tandis qu'il y a eu longtemps ce qu'on a appelé la critique des sources et puis la critique des formes, je ne m'argumente pas là-dessus, je vous le dis simplement, il y a depuis quelques années, ce qu'on appelle la nouvelle critique et ce qu'on appelle le structuralisme. Et alors, le nouvel critique et le structuralisme ont un gros avantage sur la critique des sources et la critique des formes, c'est que c'est l'étude du texte tel qu'il est. Avec la critique des sources et avec la critique des formes, découper le texte, et on ne le lisait plus tel qu'il était, mais on le découpait pour le mettre en rapport avec telle source ou avec telle forme particulière. Tandis qu'avec la nouvelle critique des structuralistes, on part du texte tel qu'il est. Et alors, quelquefois, nous pouvons trouver, et je crois qu'on l'a déjà trouvé parmi ces gens de la nouvelle critique du structuralisme, des exposés qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, dans l'Analyse, l'État fait d'un livre de Adèle Bernul, découpé Adèle comme Adèle en français, A-D-E-L-E, et Bernul comme la ville de Berlin, et il montre des choses intéressantes. Parce que Adèle Bernul, dans plusieurs de ses ouvrages, dont je l'avais vraiment cité, s'il y en a un qui veut les lire, je pourrais les lui donner, a des commentaires, par exemple sur le livre Ruth, sur Genèse 22. Genèse 22, c'est le sacrifice d'Abraham, ou le sacrifice qui aurait pu être fait par Abraham sur la personne d'Isaac. Sa mère, et dans ses commentaires, Berlin, au fond, montre comment les choses se tiennent bien dans le texte. Et en particulier, c'est ce qui m'a arrêté, parce que c'est le seul que j'ai un peu discuté, à propos de Genèse 37. Dans Genèse 37, vous avez le passage sur le complot que fomentent les frères de Joseph contre Joseph. Or, Genèse 37, il faut le savoir, c'est un des passages de la Genèse qui a battu tous les records de découpage en source. Or, Adèle Berry nous montre non seulement que ce récit forme un tout cohérent, mais que c'est liaisons linguistiques, c'est analysé selon la linguistique la plus précise, ces liaisons linguistiques, peut-être, sont toutes précises et indéniables. Si bien que, ayant lu le livre et analysé le livre d'Adèle Berry, l'État conclut en disant qu'un tel structuralisme conduit à une lecture serrée et sympathique de la Bible et ne peut qu'accroître notre émerveillement devant la bonté et la profondeur de la parole de Dieu. Alors vous voyez, en ce moment, on assiste presque à un tournant. Je crois qu'au bout du compte, il n'y aura plus que les théologiens et les pasteurs qui suivent les théologiens qui pourront énoncer les énormités des principes de la mission. Parce que de plus en plus, les partisans de la nouvelle critique et les structuralistes s'éloignent complètement de ça et montrent que ça ne tient pas debout. Alors, s'il vous plaît, c'est très curieux. De même, vous savez, on dit souvent, les théologiens et les pasteurs seront peut-être les derniers à parler avec onction de l'évolution. Parce que déjà la plupart des savants auront abandonné l'évolution. Alors, vous savez, c'est le principe qui veut qu'on est toujours à la remorque des autres, si bien qu'avant déjà à la remorque, on se trouve tout seul, et c'est quelque chose de délicat. Alors voilà, j'ai conclu mon petit exposé. Je suis un peu ennuyé, je vais vous dire pourquoi. Je sais qu'il est enregistré. Or, vous l'avez remarqué, entre mon père et ce que j'ai dit, j'ai été obligé de faire un choix. Pourquoi ? Parce que chacun de mes exposés compte, oui, je pense, en tout, 19 pages. Et chaque page est écrite comme ça. Avec pratiquement, ça en fait deux. 19 et 19, vous pensez que ça fait 38. Alors, je vous ai fait deux machins qui étaient écrits en 38 pages. Et il fallait que j'arrive à mettre ces 38 pages en une heure. C'était pas possible. Alors, je m'en ai su de près de vous, parce que dès qu'on lâche le texte, on risque, je ne sais pas si c'est trop bêtise, mais on risque de dire des bêtises, parce que le texte, on a pesé, des mots, on a pesé des phrases. On est, déjà fait, on est sûr de son texte. C'est très bien, parce que je fais de l'apologétique au point de vue biblique. On a le texte. Hein, on ne peut pas. Le texte est là, on ne peut pas y échapper. Hein. Et là, j'ai été obligé de faire comme ça. Non, enfin, par la grâce de Dieu, j'espère qu'il y a une ou deux petites choses qui auront pu vous apporter quelque chose. En tout cas, j'ai eu beaucoup de joie à être, à 85 ans, un des bisous de la pastorale de Dijon. C'est la première fois que j'y viens. Alors ça, je ne crois pas que je serai battu.
Nous remercions Pierre Ourcade pour sa présence à cette pastorale. Nous sommes conscients du tour de force que vous avez accompli en couple pour être ici, et nous vous remercions vraiment de toute notre âme. Et notre aide est immense, et nous voulons vous rassurer et vous assurer que vos communications seront un sommet de l'histoire des pastorales de Dijon. Et je propose que nous applaudissions, monsieur et madame. Thank you.
intéressant. Parce que, je dirais, vous savez, non seulement elle a lu au fur et à mesure, mais elle a souvent corrigé au fur et à mesure ma rédaction, elle m'a apporté, ça vous l'avez critique lorsqu'elle trouvait que ce n'était pas assez clair, ou que ce n'était pas assez concluant. Alors, elle a vraiment participé à tout ça, et je vous remercie de l'avoir associée dans les anciens mots. Je vous remercie du bon accueil que vous avez bien voulu lui faire, et je dirais que je regrette d'avoir manqué votre postural de
discours.